Vous êtes sur RTL. Si.
Oh, on dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Vous n'avez plus rien à craindre de cette brute, madame. Il ne vous ennuiera plus.
Coupé ! Non, d'un chien coupé, espèce d'imbécile heureux !
Mais enfin, je...
Toute une scène a recommencé à cause de vous, tripidion !
Le tournage d'un film ? Je suis confus.
Comme au cinéma.
Interrompt le tournage de Rastapopoulos, évidemment. Il y a du rififi et nous aussi, on découvre ces coulisses de tournage mouvementées dans le cinéma français avec notre invité, Philippe Lombard. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, merci.
On est content de vous retrouver. Vous êtes spécialiste du cinéma. On va entrer dans le dur tout de suite avec cette idée de Jean-Paul Belmondo. On est en 1977 et qu'est-ce qu'il veut absolument raconter aussi ? Pour le titre d'album RTL de l'année 2019. Et voici les 5 albums arrivés en tête des ventes. Mais peut-être des ventes aussi. M50s, Alain Souchon, Les Oubliés, Gauvin Serre. J'ai quelque chose à vous dire. David Hallyday, Christophe Maé et La Vie d'artiste. Et puis M Pokora avec Pyramide.
Et pour savoir qui l'emporte cette année, ce sera le 5 décembre dans Laissez-vous tenter, émission exceptionnelle qui sera enregistrée quelques jours auparavant dans le grand studio RTL. Et le lauréat se fera remettre le trophée de l'album RTL de l'année, émission spéciale qui sera diffusée le mardi 31 décembre à 20h15 sur notre antenne.
Et dans la curiosité, tout de suite, on continue de vous raconter les coulisses de ces films de cinéma qui ont mal tourné.
14h-15h.
Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau.
La curiosité est un vilain défaut.
Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film.
Sidonie Bonnec, Thomas Huck.
Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran.
RTL.
Truffaut qui révèle les secrets de tournage de son cinéma, mais en particulier de la nuit américaine. On découvre les coulisses de tournage mouvementées dans le cinéma français avec le spécialiste du cinéma, Philippe Lombard. Et on racontait cette histoire incroyable de Jean-Paul Belmondo, qui est une immense star évidemment en 77 et qui veut absolument raconter l'histoire de Mesrine, qui lui est en prison, qui attend d'être jugé. Donc il va acheter les droits à l'éditeur de Mesrine, puisque Mesrine a publié un livre qui s'appelle L'instinct de mort. Combien il va payer pour avoir ses droits ?
Il va débourser une petite fortune, il va débourser 500 000 francs pour ça, ce qui est quand même pas mal.
Alors une fois qu'il a les droits de ce livre, L'instinct de mort de Mesrine, il va faire un peu la tournée des réalisateurs pour voir qui va pouvoir filmer ça, et c'est un peu compliqué déjà.
C'est un peu compliqué parce que en fait, qu'il le propose à Costa Gavras, à Yves Boisset ou à Alain Corneau, à chaque fois les réalisateurs ont un peu une aversion quand même pour le personnage quand ils lisent le livre. Là où Belmondo voit un Robin des Bois moderne, eux ils voient quand même un criminel, quoi. Ils voient un type qui est pas super sympathique, quoi. Même s'il est il a une sorte de popularité auprès des Français, etc. Puisqu'il est un peu bravache, il défie les autorités, la police, etc. Il donne des interviews en cavale, enfin tout ça. Bon, mais ça fait un personnage cinématographique. Mais évidemment, il voit pas trop. Et finalement, c'est Philippe Labro qui va accepter de le faire.
Ouais.
Qui a déjà tourné avec Belmondo, L'Héritier et L'Alpagueur. Et la question qui se pose, c'est comment on va rendre sympathique finalement le personnage. Comment on va belmondoiser Mesrine, quoi.
Et c'est drôle parce qu'il confie l'adaptation du livre en scénario à un drôle de duo.
Alors ça oui, ça c'est assez étonnant, c'est Michel Audiard et Patrick Modiano. Ça, on se demande comment l'idée est venue. Bon, Audiard à la rigueur, mais comment l'idée de l'associer à Modiano, ça je sais pas trop. Mais Audiard est pas trop emballé à l'idée de raconter cette histoire, mais par contre il est emballé à l'idée de travailler avec Modiano.
Qu'est-ce qu'il dit du livre, Audiard?
Il comparait en fait le duo qu'il allait faire avec Modiano, ça lui rappelait en fait quand il adaptait Un singe en hiver de Blondin. Il disait la différence c'est qu'Un singe en hiver c'était une pépite d'orphin alors que L'instinct de mort c'est un paquet de merde.
Ah oui,
je cite.
Alors le 20 janvier 1978, Mesrine va écrire à Belmondo depuis sa cellule de la prison de la Santé. Qu'est-ce qu'il lui écrit? Qu'est-ce qu'il lui dit?
Il lui dit, il lui donne quelques détails en disant qu'il pourrait contacter telle personne au Canada, qu'il pourrait lui donner quelques inspirations pour le scénario. et surtout il dit, bah, il a lu le scénario, il dit mais surtout ne mettez pas jamais le mot fin parce que c'est un film à suivre. Et si le film se fait, je viendrai peut-être à la première. Donc ça fait un peu,
c'est gonflé.
C'est un peu gonflé, mais c'est un peu de la forfanterie. Bon voilà, je pense que Belmondo s'en amuse. Sauf que 4 mois plus tard, Mesrine s'évade en fait. Il s'évade du quartier haute sécurité de la prison de la Sensée et puis il continue. En fait, il chôme pas. Il braque le casino de Beauville. Il tente d'enlever le juge qu'il avait fait condamner, etc.
Ça bloque le projet, ça, l'évasion.
Ben oui, parce que à la base, quand ils ont acheté les droits du livre, Mesrine venait d'être condamné à 20 ans de prison, donc l'histoire était finie.
Et voilà,
on pouvait la raconter, quoi. Là, tout d'un coup, ça s'arrête puisque l'histoire continue.
Et puis le 31 décembre, coup de fil de Mesrine à Belmondo. Il est où, Belmondo ?
Il est en train de fêter le nouvel an avec ses parents chez Maxim's et il se demande encore comment Mesrine avait pu savoir qu'il était là, mais donc il lui souhaite la bonne année. Et puis il lui dit qu'il avait entendu dire que quelqu'un voulait casser la gueule de Belmondo et qu'il allait s'en charger. Mais bon, Belmondo lui dit non, c'est bon, ça va, je gère, c'est bon.
Et Jacques Mesrine finira évidemment par être retrouvé par la police après 18 mois de cavale. 2 novembre 79, il est abattu porte de Clignancourt à Paris par la BRI. Est-ce que ça met fin à la volonté de Jean-Paul Belmondo de raconter son histoire ou pas ?
Non, il continue en fait. Il veut toujours raconter cette histoire, d'autant que maintenant la fin est quand même extrêmement cinématographique, quoi. C'est ça qui lui plaît aussi. Il trouve que c'est aussi quelque part une fin morale. On va pas voir Mesrine s'évader à la fin, etc. Donc, mais il a toujours du mal à trouver. Et personne veut le faire en
réalité.
C'est
trop frais, pardon, d'employer ce terme-là, mais il fallait peut-être laisser passer du temps avant de pouvoir raconter cette histoire.
Ouais. Et surtout, peut-être que personne n'avait finalement envie de voir un Mesrine fait par Belmondo quelque part.
Trop sympathique.
Sympathique. C'était évident qu'il n'allait pas jouer le rôle, faire un rôle de composition. Il allait faire Belmondo tel qu'on l'aimait, quoi.
Et puis 20 ans après, c'est Cassel qui va incarner Mesrine au cinéma. Voilà. D'autres histoires incroyables à venir. Quand le tournage, par exemple, de La Cage aux Folles tourne un peu au drame ou à la comédie. En fait, le tournage va se faire en plusieurs langues, mais c'était même pas trop prévu. On vous raconte pourquoi tout de suite sur RTL.
Taxi. C'est pour ça qu'il y a une caméra. Je me disais aussi, c'est bizarre.
Oh non, qu'est-ce que t'as fait, Daniel ? Putain, faut tout refaire. Faut refaire la prise, t'as regardé la caméra, là.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
C'est de la merde. C'est pitoyable comme scénario.
Mais attends, avant de dire c'est de la merde, on commence à peine, Daniel. Tout de suite, c'était définitif, là.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Toi, t'as mis combien de temps pour écrire ton allégorie, là ?
Je sais pas, environ 3 ans.
3 ans ?
Oui.
3 ans ?
Oui, 3 ans.
Il t'a fallu 3 ans pour chier.
Oui, il m'a fallu 3 ans. Tu me casses les couilles maintenant. Allez, on arrête, c'est fini.
On arrête quoi ?
Le film, l'allégorie, la merde, tout.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'a...
Extrait du film Les clés de bagnole de Laurent Baffy. Et c'est toujours bon, un peu de Boris Vian dans les oreilles.
Il y avait sur l'écran des drôles...
Film très drôle, hein, d'ailleurs, Les clés de bagnole. Il a bien fait d'aller jusqu'au bout de son film, Laurent Baffy.
Et Boris Vian qui nous chante le cinématographe. On est avec Philippe Lombard, spécialiste du cinéma, qui nous raconte ses anecdotes, ses tournages qui tournent mal, pardon, du jeu de mots facile. Et là, on est en Italie, dans les studios de la Cinecittà, 1977. C'est drôle, c'est la même date de départ que pour Mesrine et Belmondo. C'est un hasard. Quel film se tourne ?
Eh bien, il se tourne La Cage aux Folles. Parce qu'en fait, la pièce a eu un énorme succès en France, mais personne n'a voulu l'adapter. Donc il a fallu que ce soit un producteur italien qui s'en mêle. Donc il y a une coproduction franco-italienne qui va se monter, ce qui explique pourquoi Jean Poiret ne reprend pas son rôle, mais il est remplacé par Ugo Tognazzi. Et donc tout ça se tourne à Cinecittà. Mais l'ambiance n'est pas non plus...
Alors la mauvaise ambiance vient pas du camp français, mais plutôt du camp italien. Qu'est-ce qui nous fait la fameuse, parce que c'est une énorme star à l'époque, hein, Ugo Tognazzi.
Ugo Tognazzi, il s'était engagé par contrat à jouer en français, il parle très bien français, et puis selon les témoignages des uns et des autres, on pense que en voyant le rôle qu'avait Serrault, qu'il allait prendre un peu la mainmise sur tout ça, quoi.
Donc Serrault, il joue la grande Zaza, c'est
il joue
ça,
dans Zaza Napoli,
si je me souviens bien. Zaza Napoli,
et Hugo
fait
Renato
oui. Voilà, qui s'appelait c'était Albin dans la pièce, quoi. Ouais. Enfin bref, donc il fait Renato,
mais bref, c'est pas grave.
Oui, non,
enfin bon, on voit où on est,
voilà. Et en fait, tout d'un coup, il refuse de jouer en français. Voilà. Et donc,
ça donne réplique de Cero en français.
Cero en français, lui en italien. Donc, il joue en italien, mais en même temps, il va changer les derniers mots de la phrase. C'est-à-dire que si en italien, il doit dire confiture, bah, il va dire marmelade. Ce qui fait que ça trouble un peu Cero, qui est pas, voilà, qui est pas très, très, très confortable
qu'est-ce
là-dessus.
Qu'est-ce qu'il va faire Molinaro, le réalisateur Adore Molinaro, pour raisonner l'acteur italien?
Il va essayer de raisonner Tognazzi, et Tognazzi prend ça très mal. Molinaro, c'est pas un homme à poigne, en fait. Il a eu beaucoup de problèmes avec De Funès, par exemple, sur Oscar, tout ça. Donc, il est pas dans le conflit du tout, quoi. Tognazzi, oui. Donc, quand on lui fait des remarques sur le fait qu'il devrait continuer à respecter le texte et surtout à jouer en français, il s'énerve. Donc, il déchire le script. Il se prend l'entrejambe à pleine main. Enfin, c'est ce que raconte Francis Weber.
Qui était scénariste,
ouais. Qui était scénariste. Et voilà. Donc, en fait, il menace même de à ce moment-là, de partir, de quitter le tournage. Et son agent lui dit, bah, non, mais déjà que tu joues déjà pas en français alors que tu étais engagé, si en plus tu t'en vas, tu vas devoir payer un dédit énorme, donc bah finalement il continue.
Et il sera finalement doublé par Pierre Mondi dans la version française. Renato.
On écoute un extrait. Allez.
Tiens-la bien cette biscotte, bien fermement dans ta menotte, avec mesure et décision, une main de fer dans un grand
bol. D'accord, oui.
C'est maintenant.
Bah oui, j'ai cassé ma biscotte.
D'accord, tu as cassé ta biscotte, c'est un désastre, mais devant une situation de ce genre, il est important de savoir réagir en homme, en vrai homme, tu as compris?
Oui, bien sûr.
La mythique scène de la biscotte, c'est toujours aussi bon que vous racontez dans ce livre, Ça tourne mal, publié aux éditions La Tango, ou La Tango, je ne sais plus comment on dit.
Tango.
Avec l'accent, La Tango.
Bon, ben oui, La Tango, ouais. Maurice Pialat maintenant, il tourne Police avec Sophie Marceau et Richard Anconina. On est dans 1900...
RTL.
Donc à l'issue de la projection, vous allez pouvoir poser vos questions à Monsieur Simon Jérémy, la vedette masculine du film Red is Dead, ici présent.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Hey, t'as vu, c'est une quinoton.
Hein?
C'est une quinoton.
Oui, c'est une quinoton, oui.
La curiosité est un vilain défaut.
Non, ce qui est dingue, c'est la première fois que j'en vois une en vrai, une quinoton.
Tiens, regarde, tu l'as vu de près?
Non,
va voir de près.
Parce que moi, je suis pas vraiment acteur.
Un bon. Bon.
Un extrait de La Cité de la Peur où en fait François Touchard, vous nous rappelez, Farrugia, en fait il est pas du tout comédien.
Non, il est projectionniste et il adore la marque Kinoton qui est une vraie marque de projecteurs de cinéma.
Merci pour l'explication.
C'est gentil parce qu'on comprenait rien. Merci François.
Ça chauffe sur les tournages de films de cinéma français, des récits épiques que partage avec nous Philippe Lombard, spécialiste du cinéma. On était avec vous en 84 sur le tournage du film Police, film tourné par Pialat avec Sophie Marceau et Richard Anconina. Alors ça se passe pas très bien parce que rapidement Pialat va insulter Anconina en lui disant que c'est un acteur à chier. Puis alors qu'il lui demande de jouer une scène, Anconina veut pas vraiment jouer, donc il lui dit mais t'as quand même léché la terre entière ou le sol. Le sol, oui.
Pas tout à fait le même exercice.
Non, c'était pas des humains, bien voilà. Sûr, dans mon explication.
Bien.
Bref, et donc Anconina s'en va fâché, et on le comprend. Et pourtant, Maurice Pialat va faire en sorte qu'il revienne. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, on se dit qu'il l'a perdu, son comédien.
Bah, oui. Mais de toute façon, Pialat fonctionnait comme ça, à la colère. Il obtenait des fois des choses un peu inattendues en agissant comme ça. Oui.
Sortir ses acteurs.
Exactement.
C'était sa méthode de réalisateur.
En fait, il y a une lettre qui va être écrite en réalité par le scénariste et qui va être signée par Pialat et qui va être lue devant tout le monde, une lettre un peu d'excuses et tout ça. Bon, mais enfin, voilà. En fait, l'idée, c'était de... il trouvait que
une lettre d'excuses qui disait tout le talent de Richard Anconina.
Bien sûr,
c'est Richard Anconina qui l'avait dicté, cette lettre?
Non, c'est le scénariste vraiment qui a écrit ça, et je suis pas sûr que ce soit Pialat qui l'ait lu, mais Anconina
Anconina finit par il finit le film et
voilà, mais c'est... en fait Pialat voulait trouver que le personnage de qu'il avait d'avocat du milieu était pas assez antipathique.
Ah, oui.
Donc il espérait qu'avec ça, en agissant comme ça, il le rendrait comme il le voulait.
Drôle. Bon, de voilà. Méthode.
Allez, extrait de ce Police signé Pialat.
T'as qui ça?
Pas moi.
C'est le Chris, c'est à toi?
C'est pas à moi, ça, j'ai jamais vu. Je suis pas chez moi, là.
Alors, c'est à qui? Je suis chez Lorient.
Je sais pas, j'ai jamais vu cette clé, elle est pas à moi.
Elle était sur l'étagère, là. À qui c'est?
C'est à l'ancien locataire, elle avait déjà laissé plein de trucs ici.
Le nom de l'ancien locataire, le
T'en
nom.
Je sais rien, je connais pas.
le personnage joué par Depardieu qui perquisitionne chez Sophie Marceau, enfin son personnage. Comment ça se passe avec Sophie Marceau? Parce que Piala Marceau, ça n'a pas été simple non plus, si je me souviens bien.
Non, mais en fait, a priori, Sophie Marceau ne se laisse pas faire non plus, elle reste calme, et surtout, elle s'en va entre les scènes dans sa caravane. Voilà, elle veut pas.
Elle se protège.
Elle se protège, en fait. Elle se protège. Ouais.
Allez, une autre anecdote pour finir, Philippe Lombard, très savoureuse qu'on a découvert dans votre livre, Ça tourne mal aux éditions La Tango. Ce sont les Charlots qui ont failli tourner un western avec John Wayne.
Ouais.
Alors, John Wayne a accepté.
Oui, en fait, c'est ce qu'il se dit, c'est qu'en fait, on lui a proposé l'idée qu'il aurait accepté.
Mais il n'avait pas encore vu les films des Charlots au moment où il a accepté,
je sais pas ce que ça lui inspirait, les Charlots, mais a priori, bon, enfin voilà. Et en fait, c'est Christian Fechner qui avait cette idée-là, qui voulait, les Charlots faisaient des millions d'entrées, c'était énorme.
C'est une super idée.
Moi aussi, j'aurais adoré. Merci beaucoup, Philippe Lombard. C'était passionnant, comme toujours. On vous attend bientôt dans La Curiosité pour d'autres récits. En attendant, votre livre s'appelle Ça tourne mal. C'est aux éditions La Tango. Encore plein d'anecdotes très croustillantes à découvrir.
Fin de cette